Le journal est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Les négociations du Ségur de la Santé entre syndicats et gouvernement se sont achevées la nuit dernière. Un projet d'accord a semble-t-il été trouvé pour la revalorisation des salaires du personnel hospitalier à l'exception des médecins. Premier des leaders syndicaux à être reçu aujourd'hui et demain à Matignon, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a demandé au nouveau Premier ministre ce matin de repousser toute reprise immédiate des discussions sur la réforme des retraites. Et puis à l'étranger, nous irons notamment au Japon où des milliers de foyers sont toujours coupés du monde après des pluies diluviennes. Au terme d'une ultime négociation marathon qui aura duré près de 9 heures, le Ségur de la Santé aura donc fini par accoucher au forceps la nuit dernière d'un projet d'accord sur les salaires. Le gouvernement propose une hausse minimale de rémunération de 180 euros net mensuels pour l'ensemble des personnels hospitaliers du secteur public, infirmiers, aides-soignants, administratifs, à l'exception des médecins. Alors ce protocole d'accord signe-t-il pour autant la fin du bras de fer entre l'exécutif et les syndicats? Une version définitive doit être envoyée aujourd'hui même aux syndicats, lesquels ont jusqu'à lundi pour se tourner vers leur base et ainsi valider ou non la proposition du gouvernement. Les précisions de Wafia Kenich.
Au sein de la CFDT, on parle d'un accord historique qui va remporter l'adhésion des salariés, du public, mais aussi au-delà. Bruno Lamy de la CFDT.
C'est un accord aussi qui couvre en fait pas simplement l'hôpital public, mais ça aussi concerne les salariés du secteur associatif et aussi du privé lucratif, parce qu'on est bien sur un accord concernant la santé de façon générale et non pas seulement l'hôpital public.
Ce qui fait grincer des dents la CGT et FO pour les deux syndicats. Inclure le privé lucratif, c'est augmenter son poids dans le secteur de la santé. Pour ces deux centrales syndicales, il y a doute sur le texte et surtout sur cette somme de 180 euros. Pour Force Ouvrière, c'est non. Les adhérents attendaient déjà une augmentation qui aille au-delà des 300 euros. À la CGT, on doute également d'avoir l'accord des militants. D'abord parce que cette augmentation n'est pas immédiate. Pour le porte-parole du syndicat, Patrick Bourdillon, un autre point pose problème.
Le gouvernement a souhaité introduire une remise en cause des 35 heures qui imposerait aux agents d'avoir des négociations au sens local, c'est-à-dire dans les établissements, dans les 200 établissements publics de santé en France, pour pouvoir avoir un volume horaire qui soit un volume horaire de travail supplémentaire qui serait rémunéré à des taux dont on ignore pour l'instant les contours.
Le gouvernement doit obtenir la signature d'une majorité de syndicats. Dans le cas contraire, il faudra sans doute retourner à la table des négociations.
Après son baptême du feu au Parlement hier, Jean Castex poursuit son apprentissage accéléré de Matignon en recevant jusqu'à demain les partenaires sociaux, prélude à la réouverture des dossiers explosifs inscrits à son agenda social, au premier rang desquels les retraites bien sûr, mais aussi l'assurance chômage. Alors depuis ce matin à l'hôtel de Matignon, c'est donc le grand défilé et en l'occurrence le premier à avoir pris le pouls des intentions du nouveau Premier ministre, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui s'est félicité de cette prise de contact, avant toutefois de préciser que pour lui, la priorité c'est bien l'emploi, ou dit autrement, pas question que la question des retraites ne vienne polluer celle de la relance. On l'écoute.
Changement d'homme, changement de style, sur le fond, ça sera aux actes qu'on jugera, donc on verra, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Sur la façon de dialoguer, c'est extrêmement direct avec ce Premier ministre, c'est interactif, il a très clairement déclaré qu'il voulait faire dans le cadre du dialogue social, avec les organisations syndicales et patronales, qui ne voulaient pas nous bypasser, nous mettre de côté. C'est mieux que s'ils nous avaient dit, écoutez, vous êtes bien gentils, passez-moi vos revendications, j'en ferai ce que vous voulez, et on se revoit dans 6 mois. Ce n'est pas le cas. Eh bien, on jugera aux actes, mais sur la méthode. Si c'est sincère, ce qui nous a été dit en termes de volonté, eh bien, la CFDT, elle fera valoir l'ensemble de ses propositions, qu'on n'a pas eu le temps de regarder dans le détail ce matin. Sur les retraites, la CFDT a dit que c'était clairement pas le sujet de l'été, le sujet de l'automne. Vous savez, la CFDT est attachée à un système universel des retraites. La CFDT ne s'est jamais désintéressée de la question de l'équilibre des retraites, mais clairement la priorité aujourd'hui c'est l'emploi. Donc on a dit très clairement au Premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la relance économique et sociale et la question de la préservation et du développement de l'emploi. Je pense qu'on ne va pas être les seuls à lui dire que ce n'est pas la priorité. Et on verra le 17 s'il a entendu cela. Mais très clairement, vous le savez, je me suis exprimé extrêmement clairement sur le sujet. Pour la CFDT, il n'y a pas de sujet à retraite cet été. Il n'y a pas de sujet à retraite à l'automne. Le sujet, c'est l'emploi et l'emploi.
Voilà Laurent Berger, le secrétaire général donc de la CFDT. La fin d'une véritable guerre d'usure, plus de 10 années au total d'interminables procédures judiciaires contestant les autorisations administratives à la réalisation d'un projet de Center Parcs à Roibon en Isère. Hier, le groupe Pierre et Vacances a fini par jeter l'éponge. La forêt de Chambaran sera donc préservée des quelques 1000 cottages, commerces et autres restaurants qui la menaçaient directement. Une victoire évidemment pour les zadistes qui occupaient le terrain depuis 2014 et une bonne nouvelle par ailleurs pour Barbara Pompili, la toute nouvelle ministre de la Transition écologique qui était elle aussi opposée à ce projet comme elle l'a rappelé ce matin chez nos confrères de France Info.
J'étais de longue date opposante à ce projet. Ce qui se passe là montre que on est passé à autre chose, que beaucoup veulent profiter des vacances, veulent profiter de la nature, mais dans des contextes où on fait attention. Ce projet de Center Parcs est un projet qui avait été pensé avec énormément de déboisement. On était sur une zone humide, les zones humides se réduisent énormément alors qu'elles rendent d'énormes services. Ça n'avait pas été pensé. C'est supposé être des vacances proches de la nature et en fait ça n'avait pas du tout été pensé pour protéger la nature. On a une absurdité et en plus on avait eu un clair manque de concertation en amont et on ne peut plus aujourd'hui faire des projets comme cela sans associer ceux qui vivent tout près et associer d'une manière générale les citoyens. Les citoyens veulent être associés aux décisions.
Et je précise que 3 autres projets dans l'Eure, le Jura et la Saône-et-Loire restent contestés en justice ou combattus localement. Et puis Barbara Pompili a également annoncé ce matin que le gouvernement préparait un grand plan de relance pour le ferroviaire, mais aussi tous ceux qui font du transport en commun pour qu'il n'ait pas à payer les conséquences de la crise. De son côté, Alstom a proposé ce matin de céder ses trains régionaux pour le marché français, de même que son site de production dans le Bas-Rhin et des installations en Allemagne. Et pourquoi ? Tout cela afin que le groupe français puisse racheter son concurrent Bombardier Transport. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, rappelons Pierre que le mois dernier, Alstom avait notifié donc son projet de rachat à la Commission européenne, la gardienne de la concurrence en Europe. Et c'est donc pour répondre en somme aux préoccupations de Bruxelles sur un éventuel risque de position dominante qu'Alstom, en coordination avec Bombardier, annonce aujourd'hui son intention de soumettre un certain nombre d'engagements.
Effectivement, des engagements qu'on nomme des solutions dans la pratique européenne de la concurrence. C'est précisément la possibilité d'une future position dominante qui constitue en quelque sorte la grille d'analyse principale qu'utilisent les services chargés de la concurrence. Ici, Alstom avait laissé entendre depuis quelques jours que les engagements seraient proposés, mais il y a de fortes chances que ces solutions aient déjà été envisagées avant même le dépôt de la notification formelle à la Commission européenne, le 11 juin, voire même depuis l'annonce d'Alstom en février de son intention de racheter Bombardier Transport pour une somme qui, je le rappelle, pourrait s'élever à 6,2 milliards d'euros. Dans le détail, Alstom propose de se défaire de son usine alsacienne de Reichshoffen où sont produits les trains Coradia polyvalente destinés au trafic TER en France. Ça, c'est pour la partie Alstom, mais l'entreprise propose aussi de céder les actifs de Bombardier Transport avec effectivement l'accord du groupe canadien, par exemple des trains automoteurs produits dans une usine berlinoise pour l'Autriche et pour l'Allemagne. Il y aurait aussi des cessions du même type dans les systèmes de signalisation embarqués que produit Bombardier Transport. On se rappelle l'interdiction l'an dernier de la fusion entre Alstom et Siemens a été basée sur des craintes justement de position dominante dans le secteur des trains à grande vitesse et de la signalisation ferroviaire. Ça avait provoqué des appels pressants de la France et de l'Allemagne pour réformer les règles européennes de la concurrence. Et Alstom a forcément tiré les leçons de cet échec cuisant de l'an dernier, cherché à l'avance les moyens de satisfaire aux exigences de la Commission européenne qui prévoit pour l'instant de rendre son évaluation jeudi prochain.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe doivent élire aujourd'hui leur nouveau président, un scrutin indécis pour un poste clé tout particulièrement au moment où le continent affronte la plus lourde récession de son histoire. Sommes-nous à la merci d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 en France? Dans les colonnes du journal Le Monde, le spécialiste des maladies émergentes et président du conseil scientifique chargé d'éclairer les décisions publiques sur l'épidémie, Jean-François Delfraissy, ne voit pas comment on éviterait un retour du virus à l'automne et donc une possible deuxième vague en octobre-novembre. Sans compter que la pandémie continue de s'accélérer à l'échelle mondiale, cette fois-ci avec plus de 12 millions de cas du nouveau coronavirus. L'Europe centrale, notamment, a commencé commencer par les Balkans enregistrent depuis la fin juin une hausse préoccupante des cas de Covid-19 et c'est particulièrement vrai en Serbie où pour la deuxième nuit consécutive des heures ont à nouveau éclaté devant le Parlement lors d'un rassemblement de milliers de manifestants opposés à la réintroduction par le gouvernement d'un couvre-feu intégral durant le week-end. Les protestataires reprochent au président d'avoir favorisé une deuxième vague de l'épidémie en levant rapidement le confinement initial pour pouvoir organiser des élections le mois dernier. L'Asie centrale, elle aussi, est aux prises avec une deuxième vague ravivée, là encore par le relâchement des mesures de confinement. Au Kazakhstan, notamment la plus riche pourtant des cinq ex-républiques soviétiques de la région là-bas, les hôpitaux sont désormais saturés. S'agissant des États-Unis, à présent, le dernier bilan quotidien des nouvelles infections a dépassé hier les 60 000 cas supplémentaires, un record depuis le début de l'épidémie. Et puis, pour la deuxième journée consécutive, le nombre de décès signalés a lui dépassé les 900, soit un niveau jamais constaté depuis 6 semaines. Quant au Mexique, cinquième pays le plus endeuillé au monde, il a enregistré hier un nouveau record d'infection au coronavirus avec près de 7000 nouveaux cas répertoriés lors des dernières 24 heures. Enfin, en Australie, les quelques 5 millions d'habitants de Melbourne, deuxième ville du pays, ont été reconfinés ce matin et ce pour 6 semaines. On reste en Australie toujours où en réponse à la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong, Canberra a annoncé coup sur coup ce matin non seulement la suspension de son accord d'extradition avec l'ex-colonie britannique, mais aussi l'extension des visas au profit des Hongkongais, de quoi susciter aussitôt, et comme attendu, la colère de Pékin. C'est une correspondance signée Grégory Pless.
L'adoption de la loi sur la sécurité nationale constitue un changement de circonstances fondamental. C'est la raison avancée par le Premier ministre australien Scott Morrison pour justifier sa décision de suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong. Il a en outre annoncé que les quelques 10 000 citoyens hongkongais actuellement en Australie, essentiellement des jeunes détenteurs d'un visa étudiant, pourront voir leur titre de séjour être prolongé de 5 ans, au terme desquels ils pourront même demander un titre de séjour permanent. Dans un contexte de tension grandissante avec le régime chinois au cours des derniers mois, l'Australie a également émis un avertissement destiné aux Australiens qui souhaiteraient se rendre à Hong Kong. Il les prévient qu'ils s'exposent, je cite, à des risques accrus d'arrestation pour des motifs peu clairs concernant la sécurité nationale. Hong Kong, avec qui Canberra a signé un traité de libre-échange au mois de janvier, est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Australie.
La Côte d'Ivoire, toujours sous le choc au lendemain de la mort de son Premier ministre, terrassé par une crise cardiaque hier, une disparition soudaine qui rebat de facto les cartes de la présidentielle. Renonçant à briguer un troisième mandat, l'actuel président Alassane Ouattara avait en effet choisi de céder la place à son plus proche collaborateur et chef du gouvernement. Or, à 3 mois seulement du scrutin, la disparition de son successeur désigné pourrait désormais signer le retour d'Alassane Ouattara dans la course à la présidentielle. Direction le Japon, après où services de secours et soldats s'efforcent toujours d'accéder à des milliers de foyers isolés par des inondations dévastatrices et des glissements de terrain qui ont fait au moins une 60aine de morts et provoqué d'importants dégâts depuis samedi dernier. Karine Nishimura nous appelle de Tokyo.
Réseau de télécommunications en panne, une partie des habitants de la région de Kumamoto sont aussi privés d'eau, de gaz, d'électricité et parfois coupés du monde. À la mairie de Hitoyoshi, une des villes les plus touchées, Sumire Watanabe témoigne.
On n'a pas encore évalué complètement la situation. Les trains ne circulent plus, les voies sont ravagées et des ponts ont été emportés. Impossible de dire quand ce sera rétabli.
Une grande partie de la population japonaise vit en zone inondable. Yukihiro Shimatani est spécialiste de l'aménagement du territoire à l'université Kyushu.
Il y a au même endroit des petites crues tous les 5 ans environ. Mais le désastre, cette fois, dépasse la catastrophe historique de 1965 dans la même zone. La montée d'eau a été très rapide. À 4h du matin, la population a été prise de court. Un barrage était prévu, mais beaucoup s'y sont posés pour préserver le paysage. Le débat va être relancé.
Est aussi envisageable un déplacement d'une partie de la population dans des lieux moins vulnérables.
Alors on le sait, même si les pluies associées à d'autres facteurs, notamment l'aménagement du territoire, favorisent les inondations, avec le réchauffement de la planète, les risques d'épisodes de fortes précipitations vont par ailleurs augmenter. Or, selon les nouvelles prévisions climatologiques publiées aujourd'hui par l'Organisation météorologique mondiale, au cours de la période 2020-2024, la température moyenne du globe devrait être supérieure d'au moins 1 degré à l'ère pré-industrielle. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi de l'Île-de-France à l'Alsace et sur les régions bordant la Manche. Le ciel restera le plus souvent voilé. Partout ailleurs, le soleil s'imposera très largement. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 37 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia à 18h. Vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.